Extrait numéro 18, chapitre 24, comment on est servi en Russie. Rien ne se fait ici comme ailleurs. Ce matin, vers 7 heures, j'ai entendu le pas d'une troupe, marchant comme une patrouille. Ce pas s'est arrêté dans la chambre de Moinet qui précède la mienne, et le bruit d'une espèce de discussion franco-russe lui a succédé. Moinet, qui me croyait sans doute endormi, paraissait défendre les approches de ma chambre. À un moment donné, il me parut que Moinet était vaincu et forcé de céder le terrain. En effet, le pas se rapprocha avec la même régularité, ma porte s'ouvrit et je vis une troupe de 12 hommes en chemise rouge ou rose, armés chacun d'une machine et d'une brosse à cirer le parquet. C'étaient les frotteurs du comte. Ils s'emparèrent alors de ma chambre et se mirent à l'œuvre tous les 12 à la fois. Je me réfugiai sur une chaise, comme pour fuir les vagues furieuses, on se réfugie sur un rocher. Mes vagues s'agitèrent si bien que les unes frottant debout, les autres frottant à quatre pattes, moi sautant avec ma chaise de place en place, au bout de 5 minutes, le parquet fut luisant comme un miroir. En France, je n'en eusse pas été quitte au bout d'une heure. Cette multiplicité de frotteurs a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Le moujik a une odeur particulière connue en France sous le nom de cuir de Russie. Est-ce le moujik qui donne son odeur au cuir ou le cuir qui donne son odeur au moujik ? Grand et mystérieux problème qui n'est pas encore résolu. Mais tant il y a que ma chambre, lorsqu'elle fut cirée, sentait le cuir de Russie, ou le moujik, au point que je fus obligé d'ouvrir les fenêtres et de brûler du vinaigre de bully. La même opération s'était accomplie dans la chambre de Moinet et avait été exécutée avec la même rapidité. En 2 ou 3 heures, tout le rez-de-chaussée de Bezborodko, qui peut mesurer un espace de 2 ou 3 arpents, fut frotté. Un homme seul eut mis une semaine à accomplir cette gigantesque besogne, de sorte qu'il arriverait à temps pour refrotter la première pièce en sortant de la dernière. Au reste, on n'a pas l'idée de cette armée de serviteurs de toute espèce s'agitant autour d'une maison russe. Le maître lui-même n'en connaît pas le nombre. J'ai dit que la maison du comte se composait de quelque chose comme 80 domestiques, mais je n'ai parlé que des serviteurs de jour. Restent les serviteurs de nuit. En ville, ils s'appellent des dvorniki. Ce sont les portiers. À la campagne, ils s'appellent les karaulni. Ce sont les gardiens. En ville, les portiers ne couchent chez eux qu'une nuit sur deux. Chaque portier s'entend avec son voisin. Un portier veille sur 2 maisons. Quelque temps qu'il fasse, il passe la nuit dehors. C'est à lui de s'abriter comme il peut pendant les nuits d'automne, où l'eau tombe par torrent, pendant les nuits d'hiver, où le froid monte de 25 à 30 degrés. Il tient d'une main une planche et de l'autre une baguette à tambour. Il bat sur cette planche un certain air, toujours le même, qui indique qu'il veille et par conséquent fait son service. Quelquefois il supprime la planche et bat son air sur les colonnes en bois qui sont devant les maisons. L'air n'en est que plus retentissant. On est réveillé par les heures, mais au moins on sait que l'on peut dormir tranquille, le dvornik veille. Le dvornik, c'est la police entretenue et payée par les particuliers, au lieu d'être entretenue et payée par le gouvernement. Le dvornik a cela de commode que lorsqu'on cherche une maison la nuit, de dvornik en dvornik, on finit nécessairement par la trouver. Il y a plus. Si vous avez affaire dans cette maison, comme le dvornik a la clé des 2 portes sur lesquelles il veille, il vous examine et si votre mise et votre tournure lui inspirent une confiance suffisante, il vous ouvre la porte que vous cherchez et si vous êtes novice relativement à l'intérieur, il vous prend par la main et vous conduit dans l'obscurité jusqu'à l'étage auquel vous avez affaire. Cela a son avantage et son inconvénient. Il n'y a pas la ressource du « cordon, s'il vous plaît », que notre somnolent portier parisien tire avec une majestueuse indifférence et qui vous laisse, tout en gardant l'incognito, votre liberté d'action. Mais l'inconvénient du dvornik disparaît moyennant un rouble et même moins, et comme en Russie il n'y a que des portiers et pas de portières, il en résulte que les secrets amoureux ne courent pas les rues. Passons au Karaoulni. Le Karaoulnoï, singulier de Karaoulni, est ordinairement un vieux soldat. En Russie, les vieux soldats, quoiqu'ils sortent de la classe des pays esclaves, la recrue ordinaire est de 8 hommes sur 1000 hommes, après leurs 18, 20 ou 25 ans de service, reviennent libres au lieu d'où ils étaient partis, esclaves. En France, nous dirions poétiquement « rentrer dans ses foyers ». Mais hélas, jusqu'à présent du moins, pour le pauvre vétéran, il n'y a pas de foyer en Russie. Il n'a plus droit à l'enclos, plus droit au labourage des six arpents, plus droit à la sastolnaya, plus droit à rien, enfin. En servant son pays, il est devenu paria. En récompense de ses services, le gouvernement le chasse et le propriétaire lui ferme sa porte. Il y a bien, sur la route de Starsko Selo, un hôtel des Invalides, bâti à l'instar d'une autre, et qui peut contenir 3000 personnes. Mais dans cet hôtel d'un nouveau genre, il y a 150 employés et 18 invalides. En Russie comme ailleurs, mais en Russie plus que partout ailleurs, les établissements philanthropiques ont surtout pour but de faire vivre un certain nombre d'employés. Ceux pour lesquels ils sont fondés ne viennent qu'après, ou parfois ne viennent pas du tout. Qu'importe, l'établissement existe, c'est tout ce qu'il faut. La Russie est une grande façade. Quant à ce qu'il y a derrière la façade, personne ne s'en occupe. Celui qui se dérange pour regarder derrière cette façade ressemble au chat qui, se voyant pour la première fois dans une glace, tourne autour de cette glace espérant trouver un chat de l'autre côté. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'en Russie, le pays des abus, tout le monde, depuis l'empereur jusqu'au dvornik, désire la cessation des abus. Tout le monde parle de ces abus. Tout le monde les connaît, les analyse, les déplore. C'est à qui lèvera les yeux au ciel pour dire « Notre Père qui êtes aux cieux, délivrez-nous des abus. » Les abus n'en ont que la tête plus haute. On compte fort sur l'empereur Alexandre II pour l'abolition des abus. Et l'on a raison, il veut sincèrement et de tout son cœur la réforme universelle. Mais dès qu'on touche à un abus en Russie, savez-vous qui jette les hauts cris ? L'abus auquel on touche ? Non, ce serait par trop maladroit. Ceux qui jettent les hauts cris sont les abus auxquels on ne touche pas encore, mais qui craignent que leur tour vienne. Dans l'artichaut, les feuilles les plus dures à arracher sont les premières qu'on mange. Les abus sont un immense artichaut tout hérissé de piquants. On n'arrive pas au cœur sans se piquer les doigts. Au reste, nous les passerons en revue. Ceux des Russes qui croiront que je dis du mal de leur pays, parce que je signalerai les abus qui en sont la plaie, ceux-là se tromperont. Ils agiront comme l'enfant qui prend pour son ennemi le médecin qui lui met les sangsues ou le dentiste qui lui arrache les mauvaises dents. Revenons à nos Karaoulni. Nous avons donc dit que les militaires, en sortant du service, sont de véritables parias qui n'ont plus droit à l'enclos, plus droit au labourage des six arpents, plus droit à la sastolnaya. S'il a une famille, et que cette famille le prenne en pitié, le vétéran rentre dans sa famille. Et s'il a conservé ses 4 membres, il aide sa famille. On tolère son travail. Mais s'il n'a pas de famille, il n'a même pas le droit de se louer comme rabotnik, c'est-à-dire comme travailleur. S'il n'a pas de médaille, il se fait voleur, c'est sa seule ressource. S'il a 2 ou 3 médailles, il se fait mendiant, se tient à genoux sur les grandes routes ou sur les porches des églises, baise la terre quand vous passez et vit des 4 ou 5 copecs que lui jettent par jour les âmes charitables. Les jours où il ne rencontre pas d'âme charitable, il y a de ces jours-là dans le calendrier, il se passe de manger, à moins qu'il n'y ait eu la veille abondance d'âmes charitables. S'il a 5, 6, 7 ou 8 médailles, il a une chance, c'est de devenir un karaulnoï. Les karaulni du conte ont jusqu'à 6 ou 8 médailles. Nous avons dit que les gardiens à la campagne s'appelaient karaulni. Karaul veut dire littéralement service, garde. Lorsqu'un homme est attaqué la nuit et qu'il veut appeler du secours, il crie « Karaoul, Karaoul ». C'est appelé à la garde. Donc, nous avons autour de nous 6 ou 8 karaulni qui, nuit et jour, sont sur pied. Ils se tiennent à la porte du côté du quai, aux portes de la maison, aux portes des allées, aux angles des jardins. Selon toute probabilité, ils se relaient et les uns dorment lorsque les autres veillent. Ce que je sais, c'est qu'à quelque heure du jour ou de la nuit que nous sortions, nous trouvons karaulnoï dans l'antichambre, karaulnoï à la porte, karaulnoï au perron du jardin. Dès que nous apparaissons, les pauvres diables se lèvent et se roidissent sur les jarrets en portant leurs mains à leurs casquettes. Impossible de faire un pas à quelque heure que ce soit sans rencontrer un karaulnoï, le petit doigt à la couture du pantalon, la main droite à la hauteur de la casquette. Supposez un fantaisiste qui, au lieu d'accomplir l'acte chez lui, aille au clair de lune faire une de ces choses prévues par notre vieil et excellent préfet de la Seine, Monsieur de Rambuteau. Tant que l'acte ne sera pas accompli, il aura, à 2 pas de lui, un karaulnoï, ou plus, l'œil fixe, le corps immobile. Cela gêne d'abord, comme de voir passer les enterrements sous sa fenêtre, mais on s'y habitue. Ce qui nous a fait donner ce bon souvenir à Monsieur de Rambuteau, c'est qu'il n'y a pas encore eu en Russie de grand maître de police assez amateur de pittoresque pour bâtir soit sur la perspective, soit sur la grande Moscoï, soit sur les quais, de ces petites colonnes à globes d'azur étoilés d'or qui font l'ornement des boulevards de Paris. Il y a amende pour l'étranger qui, ne se préoccupant pas de l'absence de colonnes concaves, n'y verrait qu'un oubli et non pas une loi. Il est défendu de fumer, aussi bien que de s'arrêter le long des maisons ou à l'angle des rues pour autre chose que pour remettre sa jarretière ou renouer les cordons de ses souliers. Chaque délit commis par l'une ou l'autre catégorie de délinquants est puni d'une amende d'un rouble. L'empereur Nicolas rencontra un jour un Français qui, ignorant ou bravant l'ordonnance, fumait à grosses et sensuelles bouffées un pur havane. Nicolas se promenait seul, selon son habitude, en droshky. Il le fit monter près de lui, le conduisant au palais d'hiver et le fit entrer dans le fumoir des jeunes grands-ducs. « Fumez ici, monsieur, dit-il, c'est le seul endroit de Saint-Pétersbourg où il soit permis de fumer. » Le Français acheva son cigare et demanda en sortant quel était le monsieur qui avait eu l'obligeance de l'amener au seul endroit de Saint-Pétersbourg où il fut permis de fumer. On lui répondit « C'est l'empereur ». Au reste, on comprend cette défense de fumer dans un pays où tout est construit en bois et où un bout de cigare imprudemment jeté a parfois causé l'incendie de tout un village. Aussi fume-t-on sur la Neva. Les incendies sont fréquents et terribles en Russie. L'incendie historique de Moscou n'a pas pu être arrêté par une armée de 120 000 hommes dont chaque homme était intéressé à l'éteindre. De place en place s'élèvent des tours surmontées de poulies et de cordages. Ces poulies sont destinées à faire monter des boules qui correspondent à notre cri « au feu ». Les pompiers du quartier où a lieu l'incendie arrivent les premiers, étant les plus proches, les autres viennent après. Si le feu est médiocre et peut être maîtrisé, les pompiers dont la présence n'est pas nécessaire ne sont point mandés. Si le feu est considérable ou menace de le devenir, les pompiers de tous les quartiers sont convoqués. On nous assure que nous ne quitterons pas la Russie sans voir quelques magnifiques incendies. Au reste, à ce qu'on nous assure encore, 5 ou 6 forêts brûlent aux environs de Saint-Pétersbourg. À propos, cher lecteur, Son Altesse le Grand-Duc Constantin a fait prier M. Ohm, notre compagnon de voyage, de venir le voir. M. Ohm a répondu avec tristesse et humilité qu'il était désespéré de ne pouvoir se rendre à l'invitation de Son Altesse, mais qu'il n'avait plus son pouvoir. Si le pouvoir lui revient, je vous donne ma parole de vous en prévenir à l'instant même.